Bienvenue à cette première saison du podcast La Jeune Chambre en collaboration avec CPA Mauricie Centre du Québec et enregistré au hublot de la CDEVR. On espère que vous trouverez en nos épisodes une foule d'infos pertinentes dans votre quotidien d'entrepreneur. Moi, c'est Marc Pascal et je vous souhaite une bonne écoute. Je suis avec Christophe Paquette aujourd'hui, conseiller en gestion de patrimoine au groupe conseil Legault-Dupont-Paquette de la Financière Banque Nationale. Salut Christophe.
Salut Marie.
Christophe, il est aussi détenteur des titres de gestionnaire de portefeuille agréé et de planificateur financier, mais c'est aussi le président de la Jeune Chambre. Christophe, aujourd'hui, on va jaser ensemble de planification de la retraite quand on est entrepreneur. Les entrepreneurs, en fait, ont souvent une grosse tendance à prendre davantage soin de la santé de leur entreprise au lieu de prendre soin de leurs finances personnelles. Alors, j'aimerais ça te demander ce que tu répondrais à l'affirmation « Je suis encore trop jeune, moi, pour penser à ça, la retraite ».
Quelle question. Mais non, t'es pas trop jeune, Marie. Tu seras jamais trop jeune, finalement. Il est jamais trop tard pour commencer là, à penser à plus tard. Je dirais que souvent, l'idéal, c'est de commencer à y penser dès maintenant.
Je viens de me lancer en affaires, disons. Bon, j'ai pas de régime de retraite quand je suis entrepreneur ou travailleur autonome. C'est qui les professionnels, en fait, dont j'aurais absolument besoin pour partir du bon pied puis assurer mon avenir?
Bien, quand on va parler d'assurer l'avenir, il va souvent être question de retraite, oui, mais on entend également parler de l'autonomie financière, c'est-à-dire le moment où la richesse qu'on a accumulée, la richesse qu'une personne a accumulée, va lui donner la capacité de justement faire ce qu'elle veut et de probablement dire non à des choses qu'elle ne veut pas faire. Donc oui, retraite, autonomie financière, deux synonymes. Comment y arriver? Bien, t'apportes un bon point, là, les professionnels avec qui s'entourer, c'est de bâtir son équipe. L'entrepreneur, souvent, va être déterminé. Tu l'es toi-même, tu ménages pas les efforts, tu te couches le soir, tu penses à ton entreprise, tu te lèves le matin, tu te lèves à ton entreprise. Ça t'habite 24 heures sur 24. Puis l'important, c'est pas seulement de faire tout ça seul. Il y a des professionnels qui sont là pour accompagner les entrepreneurs pour amener justement une perspective externe. On n'a qu'à penser aux comptables, au fiscaliste, à l'avocat, trois personnes qui vont pouvoir aider l'entrepreneur à se poser des questions de base aussi simples que « suis-je sous la bonne forme juridique pour mon entreprise? » Puis je pense que ça, à ce niveau-là, il y a une balado de la Jeune Chambre qui a été tournée par rapport à ça. Je ne sais pas si au moment on va l'écouter.
Oui, on a un épisode à ce sujet-là qui va être diffusé également.
Donc, peut-être important même de s'y référer ou une autre question intéressante, c'est de savoir comment l'entrepreneur va se rémunérer lui-même. Est-ce que ça va être du salaire, du dividende, potentiellement un mix des deux? On aime dire que ça prend un village pour encadrer un entrepreneur, puis ça doit commencer, selon moi, très tôt pour, comme on vient de parler, optimiser beaucoup la fiscalité. La fiscalité, aussi banale que ça puisse sembler, l'entrepreneur, c'est pas nécessairement là qu'il va trouver sa plus grande passion, mais à long terme, ça peut faire une énorme différence.
Et une fois qu'on a tous ces gens-là autour de nous, il faut quand même savoir où on s'en va, comment on fait pour calculer le montant dont on va avoir besoin pour notre retraite.
Bien, c'est là qu'au-delà des trois professionnels qu'on a parlé tantôt, puis des professionnels, il y en aura plusieurs là, au sein du parcours de l'entrepreneur. Là, on parle, je dirais, vraiment de la base. Pour ce qui est des objectifs, je te dirais que c'est là que le planificateur financier peut entrer en jeu. Pour vraiment, bon, si on veut mesurer on est où aujourd'hui et vraiment calculer où on s'en va. Et là, ça va naturellement passer par établir des objectifs. Donc, à quel âge la personne souhaite se retirer dans le futur? Certaines personnes vont viser une retraite très jeune, donc ils vont demander une plus grosse accumulation de richesses pour réussir à vivre une retraite qui est plus longue. Et il y a aussi la question essentielle de comment on veut dépenser à la retraite. Quelqu'un qui vise à dépenser 30 000 $ par année n'aura pas les mêmes besoins d'accumulation que quelqu'un que lui, mais c'est 100 000 par année et plus qu'il dépense. Tous les scénarios sont bons. On n'a pas besoin des mêmes efforts, finalement, en bout de ligne, là. Et c'est là que le planificateur financier peut aider à se projeter dans le futur. Évidemment, des projections sur des dizaines d'années, tout peut changer en cours de route, mais de faire un plan avec le planificateur, ça va aider à justement se donner une idée où on est et de prendre des décisions tout de suite pour le futur.
Parce que c'est pas du tout le même plan si on vise de prendre la retraite à 50 ans puis de faire des voyages toutes les années versus de prendre sa retraite à 70 ans puis faire du casse-tête.
Non, puis les deux plans tiennent la route. On sait que tout le monde est différent à ce niveau-là. Et probablement qu'aussi, ça sera bon de s'entourer d'un bon conseiller en sécurité financière qui, lui, va vraiment venir gérer la gestion de risque. En d'autres mots, souvent, on entend parler d'assurance. L'assurance est un coût, sauf que l'entrepreneur, le succès de son entreprise va aussi dépendre sur sa famille. Il y a toujours la famille derrière l'entrepreneur.
Mm-hmm.
On ne voudrait pas qu'un un événement de vie malheureux, que ce soit une invalidité, un décès, quoi que ce soit, vienne compromettre le succès à long terme de l'entreprise et des employés qui travaillent encore, potentiellement des associés, mais ultimement la famille de l'entrepreneur à la maison. On veut vraiment sécuriser l'avenir financier de la famille au-delà de l'entreprise. Et c'est là que le conseiller en sécurité financière peut être utile.
Je donnais l'exemple tout à l'heure d'une retraite à 50 ans remplie de voyages. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on peut arriver à se bâtir une retraite décente et très confortable sans cotisation employeur dans un REER?
Absolument. Puis c'est là que l'entrepreneur, souvent, n'aura pas de fonds de pension. Et là, que ce soit un fonds de pension, comme on dit, à prestations déterminées, ou là, c'est vraiment une rente, un jour de la retraite, qu'on va collecter jusqu'à notre décès, ou un REER collectif qu'on retrouve souvent en entreprise. L'entrepreneur, lui, il est maître de son destin. Et c'est une bonne chose parce que il n'y a tout simplement pas de limite. Il s'agit de voir l'entrepreneur, c'est comment il va s'y prendre. Ça va être quoi l'ampleur des décisions qui vont être prises pour accumuler justement des actifs financiers. Et c'est là que cette accumulation-là va passer par plusieurs... Il y a plusieurs façons de s'y rendre. Il n'y a pas de recette universelle, finalement.
Mais justement, disons, je suis dans la début vingtaine, je me lance en affaires. Ce serait quoi une bonne stratégie pour économiser en vue de ma retraite? C'est quoi les différents éléments qui devraient faire partie de mon plan?
Ben c'est sûr que le parcours de l'entrepreneur, moi, j'y vois des étapes aussi. Quand on va être, tu parles de début vingtaine, souvent, on va être plus en démarrage. Il y a des fortes chances que les excès de liquidité qu'on va générer ou de revenus, on soit tenté de les réinvestir dans l'entreprise. T'sais, à un moment donné, on veut lever, on veut grossir, on veut potentiellement engager plus d'employés, on veut augmenter ses revenus annuels tout simplement. Donc, il y a des fortes chances que les revenus à ce moment-là restent dans l'entreprise. Mais plus l'entreprise va prendre vraiment de maturité, bien, il y a des fortes chances que là, on dégage de plus grosses liquidités. Et là, on va peut-être regarder pour l'immobilier. Tu sais, l'immobilier, on en entend souvent parler. Très fort moyen d'épargne à levier à long terme. Ça prend le temps pour le faire, ça prend le goût. Dans tout investissement, il y a un risque de rattacher à ça, mais qui peut être naturellement mesuré. Mais là, potentiellement, que l'entrepreneur, bien, il va peut-être prendre cette voie-là. Il va acquérir le bâtiment dans lequel il opère pour vraiment là, se sécuriser une autre forme d'actif à long terme qui pourra convertir en portefeuille de retraite une fois rendu, ou du moins un actif générateur de revenus.
Parce que là, quand on parle d'immobilier, on n'est pas nécessairement obligé d'aller dans l'immobilier résidentiel locatif. Là.
Les avenues, je crois, sont illimitées. Je suis loin d'être un spécialiste en immobilier, mais c'est clairement une voie d'accumulation de richesse qui a fait ses preuves, tout comme l'accumulation de placements boursiers.
Mm-hmm.
Et là, c'est là qu'on va vraiment prendre des revenus personnels ou de l'entreprise pour investir en bourse. Donc, si on est au niveau personnel, oui, tu parlais tantôt, bon, le REER, le CELI, si on veut, deux sortes de comptes de placement très utiles à ça, mais souvent, l'entrepreneur va aller au-delà de ça. Donc, va faire de l'investissement dans des comptes de placement réguliers ou va avoir des liquidités excédentaires dans sa compagnie qu'il va utiliser pour faire du placement aussi à long terme. Parce que l'entreprise qui est aujourd'hui opérante risque un jour de devenir une entreprise de placement. Ou ce que le fonds de retraite, c'est là où il va être.
Donc, on parle de REER, CELI, immobilier, placement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui devraient faire partie du plan?
Bien, tant qu'on parle d'un actif financier tangible, qui a une valeur de revente, qui a la capacité un jour de générer du revenu et de supporter le coût de vie, parce que la retraite et l'autonomie financière, c'est ça, comme on disait tantôt, c'est le moment où nos actifs nous permettent de vivre notre vie, de dépenser finalement sans avoir à travailler nécessairement. On peut continuer jusqu'à 70, 80 ans si on veut, mais comme on disait, la retraite, c'est là où on va pouvoir faire nécessairement ce qu'on veut, quand on veut.
Est-ce que la vente de son entreprise devrait être considérée dans un plan de retraite?
Assurément. Ça va être difficile de la quantifier précisément, là, surtout quand on est 10, 15, 20, 30 ans avant la vente, parce qu'on ne connaît pas la croissance le potentiel qu'elle pourrait atteindre rendu là, ben d'en tenir compte, clairement que c'est important parce qu'on veut au fil du temps, c'est mesuré à chaque année, la valeur d'une entreprise d'une certaine façon, là. Que l'entrepreneur soit conscient de la valeur qu'il a entre les mains, je crois que c'est très important parce que si ça va bien, ça va bien, tant mieux, mais ça pourra aussi permettre à l'entrepreneur de réaliser que là, oh, OK, je travaille, je me tire un revenu de mes affaires, mais la valeur de revente de mon entreprise elle, ne dépend que de moi. Si je suis plus là, il n'y a plus de valeur. Ben, là,
Dans une entreprise de service, par exemple, où c'est l'expertise de l'entrepreneur qui
Exactement. Si on n'est pas capable de vendre l'achalandage à la retraite, ben là, clairement que là, l'entreprise ne doit pas être vue comme un actif qui sera vendu à la retraite, mais plutôt un actif générateur de revenus tant qu'on est dedans. Et c'est là qu'on doit en profiter pour en mettre de côté.
Donc, c'est un peu risqué de baser son plan de retraite sur la vente de son entreprise, quelle qu'elle soit.
Mais je te dirais que tout passe par vraiment une gestion de risque. On entend souvent parler de diversification. Ça serait pas une mauvaise idée de, oui, se concentrer sur l'entreprise, mais comme on disait tantôt, de peut-être aller stationner de la richesse sur des actifs hors de l'entreprise pour se donner une certaine sécurité aussi à long terme.
Dans l'épargne personnelle, on parlait tout à l'heure de REER, de CELI. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu justement des avantages d'un et l'autre?
Exact. Non, on tombe vraiment dans le plus technique. Ça sera, le but, je dirais, de ma réponse sera pas de donner un alignement clair de va plus vers le CELI, va plus vers le REER. Il y a tellement de facteurs qui vont déterminer sur une année donnée, oui, cette année, je dois cotiser mon REER, oui, je dois cotiser mon CELI. Puis là, on est toujours au niveau personnel. On sait qu'une entreprise n'a pas de REER ni de CELI, là. Le REER, souvent le plus connu, c'est un. J'aime donner l'image d'une boîte. C'est un compte de placement où à chaque année, on va aller glisser de l'argent qu'on a gagné. À l'entrée dans le compte, le gouvernement va offrir un retour d'impôt qui va dépendre du revenu annuel de la personne, là. Ce retour d'impôt-là se trouve être de l'impôt reporté parce que les actifs qu'on met dans le REER, donc les placements, vont fructifier à l'abri de l'impôt tout au long de la période de détention. Mais quand on va les sortir à la retraite, ou avant, on peut les sortir avant, c'est pas nécessairement recommandé, tout simplement, mais il y aura un jour où on va s'en servir pour vivre, et c'est là à la sortie que le retrait REER, disons, on sort un 10 000 du REER, ben ce retrait-là est l'équivalent de sortir 10 000 de salaire. Donc on va être imposé là-dessus à la retraite. Mais le REER en soi, souvent, le report va être intéressant si notre niveau d'impôt est plus élevé quand on travaille versus quand on ne travaille plus et on effectue le retrait. C'est là que le report est le plus intéressant. De son côté, CELI, ben c'est une autre boîte. On peut mettre les mêmes placements à l'intérieur de ça que le REER. Le CELI n'est pas un compte de banque. Souvent, il y a une croyance que le CELI, c'est pour des besoins court terme. Ça peut servir à ça. Mais c'est aussi un excellent compte pour l'investissement à long terme. Donc, dans cette boîte-là, on met des investissements. Reprenons l'exemple du 10 000 de tantôt que je te donnais. Eh bien, quand on le met dans le CELI, on n'aura pas le report d'impôt, le retour d'impôt, pardon, que le gouvernement nous donnait pour le REER. Par contre, l'accumulation se fait à l'abri de l'impôt. Donc, tous les gains qu'on va générer à l'intérieur au fil du temps, c'est libre d'impôt. Et à la retraite ou avant, quand on va ressortir les sommes, bien, on n'est pas imposé dessus le retrait. De là la distinction avec le REER. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Le but, c'est de les utiliser vraiment au bon moment, selon souvent les revenus imposables de la personne.
Si je résume un petit peu notre discussion, il n'est jamais trop tard pour penser à la retraite, mais le plus tôt on s'y prend, mais la plus belle retraite on va pouvoir avoir selon nos objectifs.
Plus belle retraite ou tout simplement le poids d'accumulation va être moindre. Parce que d'accumuler les actifs nécessaires pour la retraite en 10 ans, disons, on fait un sprint de 50 à 60 ans, c'est pas nécessairement ce qui est recommandé, mais ça peut arriver. Ça sera pas le même poids que quelqu'un qui commence dans la vingtaine, début trentaine et qui souhaite arriver au même objectif à 60 ans, disons. Donc, oui, le plus tôt, c'est le mieux, mais cet investissement-là qui sera fait de la façon qu'on a parlé tout à l'heure, là, il y a plusieurs options, ça demeure de la consommation reportée. Donc, c'est de dire non aujourd'hui à de la consommation pour mieux en profiter plus tard. Et c'est souvent là qu'on doit se poser les bonnes questions.
Est-ce que j'en ai vraiment besoin?
Je semble avoir déjà entendu cette question.
Merci beaucoup, Christophe, pour ton temps aujourd'hui.
Merci Marie, c'est moi qui te remercie. Merci pour l'invitation.
Et je remercie aussi Pierre-Yves du Studio Le Pays à la réalisation de cet épisode.